Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal présenté par Noéla Luzitu Kabambi.
Retour progressif au calme après une psychose dans la matinée d'hier dans un site des déplacés au quartier Mugunga au Nord Kivu. En colère, les déplacés du site de Lushagala ont lynché un homme avant de le brûler vif. Ce dernier serait surpris en train de filmer le dispositif de l'armement des FARDC installé dans ce quartier. Le chef de quartier Mugunga appelle la population et donc ses déplacés au calme et leur demande d'éviter de se faire justice. Le président national du parti politique Convention fédérale du Congo et opérateur économique de l'Ituri est aux arrêts. James Kenda Odu, d'abord en résidence surveillée, est transféré depuis mercredi à Kinshasa. Jusque-là, les raisons de cette arrestation ne sont pas connues. Kwasi Yebwa, chercheur senior de l'Institut d'études des sécurités basé à Pretoria en Afrique du Sud, est l'invité de ce journal. Cet institut est en pleine vulgarisation à Kinshasa des résultats de l'enquête sur les perspectives de développement de la RDC à l'horizon 2043. Bonjour à tous. Au Nord Kivu, le calme revient progressivement après une psychose dans la matinée d'hier jeudi dans un site des déplacés au quartier Mugunga. À la base, les déplacés du site de Lushagala en colère ont lynché un homme avant de le brûler vif. Ce dernier serait surpris en train de filmer le dispositif de l'armement des FARDC installé dans ce quartier. Ceci s'ajoute aux détonations des bombes larguées par l'armée en direction de l'ennemi depuis tôt le matin vers la cité de Sake, ce qui a exacerbé la tension et la peur parmi les déplacés qui ont encore en mémoire des tristes souvenirs. Le chef du quartier Mugunga appelle la population de son entité de déplacer donc au calme. Safari Mbali Bourkira décrit la situation qui a régné hier matin. Il est joint par Denise Loukesso.
Pour le moment, la situation est relativement calme, à part quelqu'un qui vient d'être cantiné par la population déplacée, en disant qu'il était en train de filmer nos armes. On est en train de faire l'investigation. Donc il est inconnu jusqu'à présent parce que je suis avec les autorités locales, les chefs d'avenir, les chefs de site de Lushagala. Jusqu'à présent, nous ne savons pas son identité. Les bombardements commençaient à 4h, on est en train de suivre jusqu'à maintenant. Jusqu'à présent, il n'y a pas la réplique. Avec les bombardements, on a sensibilisé tous les déplacés pour qu'ils soient calmes parce que c'est la haute hiérarchie est en train de réagir. Donc tous les déplacés sont déjà sensibilisés. Nous les demandons d'être calmes parce qu'on est en train de faire le suivi.
Toujours au Nord Kivu, la société civile Force Vive Coordination de Karisimbi encourage la population à s'en remettre aux autorités en cas de situation suspecte. Christian Kalamo, président de la société civile de Karisimbi, est au micro de Chris Mukande.
Il y a eu un cas de justice populaire au niveau du quartier Mugunga, là-bas à Lushagala. C'est un acte que nous, la société civile, nous ne pouvons pas vraiment encourager. Parce que, en faisant cet acte-là, nous perdons beaucoup d'informations qui devaient même aider le pays à la population du quartier Mugunga. C'est vrai d'être vigilante, d'être toujours aux aguets, de travailler main à main avec les services de l'ordre. Et pour tout mouvement suspect, soyons toujours là pour alerter, dénoncer, auprès de nos autorités. Vous savez, la personne qui vient de perdre la vie là-bas, c'est vrai, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, mais c'est avec les enquêtes, à travers nos agents de l'ordre, qu'on devait avoir toute information nécessaire. Mais quand nous rendons justice, ce n'est pas beau parce que nous perdons beaucoup de choses sur le plan information. Au service de l'ordre, de vouloir aussi être prêt à écouter la population, à tout mouvement que la population devait faire pour faire appel à nos agents de l'ordre.
Pendant ce temps, la situation humanitaire se dégrade dans la partie nord de la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. C'est la conséquence de l'avancée des combattants du M23 qui ont occupé progressivement cette semaine plusieurs villages de l'axe Kikuku, Kanyabayonga. Cette situation touche à présent le groupement des Ikobo, territoire voisin de Walikale, indique un leader communautaire local. Bienvenue Bouchou, qui est aussi directeur de la radio communautaire de Buleusa, chef-lieu du groupement Ikobo, déplore le fait que l'avancée rebelle menace maintenant cette entité aussi. Il a été joint par Bernard Danyang.
C'est depuis hier que la localité de Lusso a été récupérée par ces mêmes rebelles. Et voilà que l'entité de Buleusa dans le groupement Ikobo a reçu plus de 4000 déplacés qui sont cantonnés déjà à Buleusa, dans des écoles, d'autres dans des églises et d'autres ont passé même nuit à la Belle Étoile. Ce matin maintenant vers 4h, qu'il y a eu une grande psychose au sein de la population de Buleusa. qui a jugé de déserter la cité de Buleusa vers d'autres villages du groupement Maïkobo, tels que Roussamambu, Kishongia, Kanune, Bouchalingua, et d'autres se sont dirigés à Brousse, et d'autres vers Kirumba, dans les territoires de l'Ubérucide. Ce que nous pouvons recommander toujours au gouvernement, c'est renforcer toujours les militaires, et nous continuons toujours à croire à notre force d'empêcher l'ennemi avancer et conquérir d'autres localités.
Rappelons que plusieurs habitants ont fui ces cinq derniers jours les villages Mirangi, Yobora, Birundule, Kiagala et Lusoa sur l'axe Kikuku-Kanyabayonga consécutivement à cette guerre du M23. D'autres habitants qui ont fui leur domicile depuis quelques jours, ce sont ceux des plusieurs localités et villages du territoire de Lubero à la suite des combats entre les FRDC et le M23 dans le territoire voisin de Rutshuru. Les déplacés se concentrent dans la commune rurale de Kanyabayonga où la situation humanitaire reste préoccupante. Dans la province du Kwilu, la tension reste vive entre la population du village Mushipentane et ses environs dans les territoires de Bagata et la société Cap Congo. Celle-ci a signé l'année dernière un protocole d'accord avec la province du Kwilu pour l'exploitation de 42 000 hectares des terres dans ce coin. La population accuse cette société de vouloir la chasser afin de récupérer la concession. Pour sa part, Cap Congo rejette toutes ces allégations. Ses habitants du village Mushipentane craignent aussi que l'insécurité qui est vécue à Kwamutz à la suite du conflit foncier Tekeyaka atteigne Mushipentane. Ils en appellent à l'intervention des autorités. Plus d'explications avec Irène Mboma.
La société Cap Congo, qui est une compagnie agro-pastorale, s'est implantée à Mushipentane, village situé à une trentaine de kilomètres de la ville de Bandundu, dans le secteur de Kwango-Kasai, territoire de Bagata au Kwilu. Après avoir débuté les travaux d'ouverture des boulevards pour démarrer ses activités, la communauté locale, dont les fermiers, crie déjà à la violation des limites, à la dévastation de ces champs et dénonce plusieurs menaces de la part du responsable de cette société. Les événements qu'on a observés du côté des plateaux de Bateke ont traversé vers Mushipentane. L'homme blanc a acheté 42 000 hectares à Mushipentane. Donc nos maisons, nos champs, nos cimetières et nos fermes, il veut que nous puissions les abandonner en sa faveur. L'homme blanc veut récupérer notre concession, mais nous, Congolais, où irons-nous? Que les autorités s'impliquent dans cette situation. De son côté, M. Red, responsable de Cap Congo, qui rejette en bloc toutes ces accusations, réagit comme suit.
Nous sommes là pour développer et pour travailler ensemble, pas pour chasser.
Notez que le protocole d'accord entre la province du Kwilu et la société Cap Congo a été signé pour une durée de 25 ans, renouvelable avec l'accord des parties. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, notez l'ouverture hier jeudi du symposium scientifique sur la paix, la sécurité et les droits de l'homme dans la région des Grands Lacs africains, organisé par le caucus des professeurs Lega pour la paix et le développement, CPLD. Ces assises de deux jours donneront l'occasion à plus de 120 experts issus des différentes corporations nationales et internationales de réfléchir et d'échanger sur la problématique des conflits dans la région des Grands Lacs africains et de proposer des solutions pour le retour d'une paix durable en vue du développement intégral de la région. Le modérateur du CPLC a déploré la léthargie d'engagement des gouvernements et de la communauté internationale pour mettre fin aux conflits multiformes dans la région qui compromettent la paix et la sécurité. Les propos du professeur Pax André-Marie Kitomasimango ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
La région des Grands Lacs africains connaît depuis plus de trois décennies une vague de conflits armés dont les conséquences sont inimaginables en termes de graves violations des droits humains et du droit international humanitaire. Ces conflits opposent plusieurs acteurs dont les forces armées régulières, les terroristes, les groupes armés d'autodéfense populaire, entraînant des conséquences extrêmement inhumaines et inimaginables en ces siècles dits de civilisation des nations. Cette situation ne devrait pas laisser indifférent toute personne qui est éprise de la promotion de la paix et des valeurs républicaines. C'est dans ce contexte que le caucus des professeurs Lega pour la paix et le développement s'est mobilisé pour organiser ces forums. Le présent symposium a pour objectif principal de mener des réflexions scientifiques approfondies pouvant faciliter à mieux cerner les pistes de solutions adéquates pour la pacification de la région des Grands Lacs africains.
Notez que tour à tour, le coordonnateur du PDDRCS, professeur Jean Bosco Bahala, les représentants du mécanisme de suivi des accords de paix de la MONUSCO et du service spécial du chef de l'État en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites à la femme et traite des personnes sur les violences sexuelles et la mise en application de la résolution 1325 ont planché sur les acquis, les défis et efforts fournis par leur structure pour le retour de la paix dans la région des Grands Lacs africains. Nous en parlions dans le sommaire. En Ituri, James Kenda Oudou, le président national du parti politique Convention fédérale du Congo et opérateur économique bien connu dans la province, est aux arrêts. Il a été placé en résidence surveillée avant d'être transféré mercredi à Kinshasa, affirment nos sources. Pour l'heure, aucune source officielle ne donne les raisons de cette arrestation. Du côté du directoire de son parti, les responsables appellent les militants au calme en attendant l'issue de ce dossier. D'autres précisions avec vous, Jean-Claude Lokidile.
C'est dans la soirée de lundi que la résidence de James Kenda est assiégée par des soldats de la garde républicaine qui lui communiquent qu'il est en état d'arrestation. Selon sa précisée de qui vient l'ordre, ces derniers étaient tous armés, affirme Emmanuel Ovibo, l'un des cadres du parti politique CFC. Après avoir passé 48 heures en résidence surveillée, il est transféré à Kinshasa à bord d'un aéronef d'une compagnie commerciale via Goma. Il était accompagné d'un agent de service de sécurité. Toutes les sources contactées disent ne pas connaître pour l'instant les griefs mis à la charge de ces riches hommes d'affaires. Certains responsables interrogés pensent qu'il s'agirait des dossiers liés à la fraude douanière dans laquelle il serait plusieurs fois cité. D'autres estiment qu'il serait de connivence avec les groupes armés, des allégations que rejette Emmanuel Ovibo, le secrétaire adjoint en charge de la Ligue des jeunes du parti politique CFC, membre de l'Union sacrée, la plateforme de la majorité au pouvoir. Et pour rappel, James Kenda est un opérateur économique qui, durant de nombreuses années, a investi ses avoirs dans les secteurs pétroliers, l'immobilier ainsi que la réhabilitation des routes. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Province de la Mongala à présent, l'association dénommée Espace Inter-Mongalais se félicite de compter 3 ressortissants au sein du nouveau gouvernement souminois. Leur présence doit plutôt être une occasion de relever plusieurs défis de développement auxquels la province reste confrontée, notamment le délabrement des infrastructures socio-économiques et administratives, ainsi que les érosions et le manque des unités de production. Le point avec Paul-Richard Malengela.
La reconduction de Jean-Pierre Liaou, Guy Aimé Molendo et d'Élisée Bokoumouana au sein du gouvernement souminois suscite encore une vive joie dans la province de la Mongala dont ils sont originaires. Ce jeudi, la structure de réflexion Espace Intermongalais leur adresse un message de félicitations et de solidarité. Mais dans ce message, l'IM estime que ses représentants sont plutôt un atout majeur. Cette envie de mieux plaider et de booster le développement de la Mongala. Car depuis des décennies, la province reste confrontée à plusieurs défis. C'est ce que dit le coordonnateur national de l'IM, Eric Basselé.
Faudrait-il vous rappeler au cours de ce énième mandat que le tronçon routier de la RN6 à Koula, Lissala, Lissala-Bumba et Bumba-Bundu qui demeure dans un état de délabrement très avancé. Il en est de même pour les tronçons routiers économiquement stratégiques, Lissala-Businga et Businga-Badolite, abandonnés depuis une décennie, devraient être réhabilités.
À cela, Eric Basselé-Liele ajoute également le défi de multiples têtes d'érosion, lesquelles menacent de disparition la ville de Lissala, la côte de la ville de Bumba sur le fleuve Congo et le bâtiment administratif de Bongandanga. Enfin, l'IM attend voir l'érection des aéroports à Lissala et à Bumba, ainsi que le renforcement de l'électricité, de l'eau potable et de la voirie à travers les centres urbains. Bondaka pour Chamalengela Radio Okapi.
Dans la province du Haut-Uele, les boutiques et les magasins sont fermés depuis lundi par la mairie d'Isiro pour insolvabilité de loyer. Selon certaines sources locales, les propriétaires des maisons de commerce qui se sont acquittés de leurs obligations ont été autorisés à les rouvrir. Cependant, ils en ont été empêchés par la FEC afin de contraindre le maire de la ville à négocier avec eux la tarification des différentes taxes qui leur sont imposées. Pour le premier président de la FEC Haut-Uele, Jean-Martin Mago, ils n'ont pas la même interprétation avec la de 2 taxes à payer. Ces propos ont été recueillis par Jacques Moukonkole.
La première taxe, c'est la taxe de location s'y réchauffe au marché public urbain. Le maire de la ville a éclaté ça à plusieurs catégories. Il y a des gens qui paient 125 000, d'autres 300 000, d'autres 380 000, ainsi de suite. Et le problème d'interprétation, c'est que c'est une échoppe. Un petit local où on exerce location échoppe dans les marchés urbains. C'est les échoppes construites par la ville qui sont données à location commerçant et ceux-ci payent la location à cet effet. Mais si vous voyez dans la nomenclature de la mairie, c'est plusieurs catégories d'échoppes. Même les entrepôts sont des échoppes, les stations sont des échoppes, les grands dépôts des boissons sont des échoppes. Tu vois qu'il y a un problème de terre. C'est pourquoi on a demandé à ce que l'on s'asseye et que l'on ait la même compréhension. Concernant la taxe sur les stationnements dans les parkings publics, mais il faut qu'on discute, il faut qu'on échange, n'est-ce pas? Nous, nous sommes des partenaires. Si l'on nous considère comme des sous-citoyens et que nous devons tout gober sans nous poser des questions, je crois que c'est une erreur.
Le maire de la ville d'Issiro n'a pas été joignable pour donner sa version sur cette question.
Actualité internationale.
Un homme travaillant pour une ONG américaine et détenteur des passeports belges et portugais a été arrêté dans le sud-est de la Centrafrique et fait l'objet d'une enquête pour complot présumé contre l'État en lien avec des groupes armés rebelles, annonce faite ce vendredi par le parquet de Bangui.
L'invité.
Kwasi Yeboua, chercheur senior de l'Institut d'études des sécurités basé à Pretoria en Afrique du Sud, est l'invité de ce journal. L'Institut d'études des sécurités est en pleine vulgarisation à Kinshasa des résultats de l'enquête réalisée sur les perspectives de développement de la RDC à l'horizon 2043. Parmi les recommandations figurent l'amélioration de la gouvernance, la diversification de l'économie et le développement du secteur agricole. Kwasi Yeboua s'entretient avec Tati Mapoukou. Suivez.
Docteur Kwasi Yeboua, bonjour.
Bonjour.
Vous avez mené une étude sur les perspectives de développement de la RDC à l'horizon 2043. Qu'est-ce qui a motivé cette enquête, docteur?
L'Institut d'études de sécurité, comme vous l'avez mentionné, au début travaillait sur les questions de sécurité, de paix et de stabilité en Afrique. Mais avec le temps, on a constaté que le problème majeur de l'insécurité et de l'instabilité en Afrique, c'est le problème du développement. Et tant qu'il n'y a pas de développement inclusif en Afrique, il sera difficile d'avoir une paix durable dans notre continent. Et donc, on s'est concentré sur les questions du développement.
D'accord.
Et donc, ce qu'on fait, on travaille sur les perspectives de développement à long terme des 54 pays africains et pour aider à la prise de décisions pour essayer d'avancer le développement dans notre continent. Et c'est ce qui a motivé cette étude sur le cas du Congo.
Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les grandes thématiques qui ont fait l'objet de cette enquête?
Cette étude a abordé tous les secteurs liés au développement, depuis la démographie, l'urbanisation, la gouvernance, l'agriculture, les infrastructures, le commerce international et tout. On a abordé les ressources naturelles du Congo.
Voilà, commençons par la démographie. Quel est le constat qui a été dégagé?
Le constat dégagé, c'est que la population congolaise croît rapidement et actuellement le Congo a la quatrième population la plus large en Afrique après le Nigeria, l'Éthiopie et l'Égypte. Cette population d'ici a actuellement estimé à 99 millions pourrait atteindre 164 millions en 2043 au cours de ces 20 prochaines années. Mais la population active constitue autour de 51% de la population. Donc cette population active pourrait être un atout pour le Congo si elle est bien formée et intégrée de façon productive dans l'économie.
Et dans les volets éducation et santé?
Au niveau de l'éducation, on a constaté que le Congo a fait des progrès au cours de ces 15 dernières années, les indicateurs d'éducation tels que le taux de scolarisation au niveau du primaire ou au niveau du secondaire ont vraiment progressé et le Congo est même au même niveau que les pays à faible revenu en Afrique puisque le Congo est un pays à faible revenu. Mais le défi majeur du système éducatif congolais, c'est le taux d'achèvement qui est faible. Beaucoup d'enfants rentrent à l'école primaire, mais très peu terminent et aussi la qualité de l'enseignement, la qualité de l'éducation, est vraiment le niveau de la qualité est faible et ce qui fait qu'il y a une adéquation entre ce que le marché de l'emploi demande et les qualités ou bien ceux qui sont des écoles. Et la conséquence, c'est le chômage et les gens qui se débrouillent dans le secteur informel.
Et au niveau des ouvrages d'intérêt public, quel est le constat qui a été dégagé? Pont, route, rail?
Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, j'aimerais aborder aussi le système de santé. Et comme je le dis, les Congolais ont très peu accès aux soins de santé de base parce que le secteur est sous-financé, les coûts des soins élevés et le niveau insuffisant du personnel médical qualifiés. Mais des progrès ont été faits, et par exemple pour le taux de mortalité infantile qui est en train de baisser, le taux de mortalité maternelle aussi en train de baisser, et ça va baisser encore avec la gratuité des femmes qui vont accoucher maintenant. Et voilà, donc c'est ça. Donc,
évoquons également maintenant, parce que là je vois sous mes yeux les volets gouvernance qui a également fait l'objet de l'enquête.
La gouvernance aussi a été évoquée dans l'étude. Et comme on le dit dans l'étude, les indicateurs de développement de la RDC sont faibles. Quand vous regardez l'indice Mo Ibrahim, qui classe les pays en fonction de la qualité de leur gouvernance, la RDC est classée 49e sur 54 pays africains, avec une moyenne de 32 sur 100, ce qui est largement en dessous de la moyenne de l'Afrique, qui est de 48 sur 100. Et même en Afrique centrale, la RDC est en dessous de la moyenne. Et donc, il faut vraiment améliorer la gouvernance. La corruption est endémique et qui affecte la mobilisation des recettes intérieures dans le pays, qui réduit la capacité de l'État à investir dans les infrastructures socio-économiques de base pour améliorer les conditions de vie de la population.
Docteur Kwasi, une idée sur le gant de résolution ou les propositions, les suggestions que vous avancez dans le cadre de l'enquête qui a été menée.
Pour les trois secteurs clés qui pourront vraiment avoir un impact considérable sur le niveau de vie des Congolais, c'est l'amélioration de la gouvernance, la transformation structurelle de l'économie et le développement du secteur agricole.
Docteur Kwasi Yeboua, nous rappelons que vous êtes économiste et chercheur senior à l'Institut d'études de sécurité basé à Pretoria, en Afrique du Sud. Merci d'avoir été avec nous.